Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « Nous avons un grand souverain sacrificateur céleste ». Alors, on va regarder trois aspects dans les trois versets. Je pense que les trois aspects présentent des choses différentes. Le sacrificateur céleste, on va d'abord regarder son identité. Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à ses auditeurs ou à ses lecteurs que « ainsi nous devons, comme il dit dans le verset 14, nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons. » Alors, on sait que les Juifs, ils venaient juste de sortir du judaïsme, l'ancien système des Juifs, et ils étaient maintenant chrétiens. Mais ils subissaient une pression énorme du peuple juif qui les avait exclus de leur communauté. Et ils avaient certains problèmes avec la notion du Messie venu. Et là, les autres Juifs se mettaient sur eux et disaient, on attendait un Messie qui était pour nous libérer des Juifs, des Romains, ils l'ont pas fait. Comment ça se fait que s'il était Dieu, comment ça qu'on a pu le crucifier puis le mettre, c'était un homme, comment ça qu'on a pu le tuer? Il y avait plusieurs problèmes qui se présentaient à leur esprit et beaucoup de pression sociale, économique, parce que à cette époque-là, quand on mettait quelqu'un hors de la synagogue, ça l'impliquait plusieurs choses. Plus aucun juif avait le droit de te parler. Imaginez-vous aujourd'hui si on devenait chrétien, puis la conséquence de ça, ce serait que tout le monde de Rouen dirait, eux autres, là, on leur adresse même plus la parole. Eux autres, là, on les laisse plus rentrer dans nos commerces, on les laisse plus acheter. C'était ça, là. C'était vraiment une pression énorme. Alors, il y avait une tentation de retourner dans le vieux système sacrificiel et de se rejoindre aux Juifs dans leur système qu'il y avait, sans nécessairement accepter que celui qui était venu, Jésus, était véritablement leur Messie, mais qu'ils se devaient de comprendre qui il était vraiment avant de vouloir, d'être tenté de retourner dans l'ancien système religieux qu'il y avait, qui était une image, qui était un symbole. Le système sacrificiel, c'était un symbole qui représentait la venue future de Christ. Alors, il faut ici se souvenir que ce que l'auteur dit au verset 4-14, c'est, nous, quand on étudie un épître comme celle de l'Épître aux Hébreux, on l'étudie aujourd'hui trois versets. Alors, si on prend les trois versets, puis on oublie ce qui a été dit avant, là, on manque un gros bateau parce que une épître, c'est une lettre. C'est une lettre qu'il avait écrite. Alors, c'est un peu comme si vous receviez une lettre chez vous de quelqu'un. Vous prenez pas juste une phrase à l'intérieur de la sixième page. Vous vous souvenez de ce qui a été dit dans le courant, dans le développement de la pensée. Pas pour rien qu'il dit au verset 14 du chapitre 4, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Alors, il professait une certaine foi, et l'erreur, il nous disait, « Ne commettez pas l'erreur de retourner dans le judaïsme. Remémorez-vous ce qui a été dit dans le chapitre 1. » Qu'est-ce qui avait été dit dans le chapitre 1? Beaucoup de choses. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reviser un petit peu ce qu'on a vu depuis le début. Remettre les choses en perspective de manière à apprécier ce qu'il est en train de dire dans le verset 4-14. Alors, dans le chapitre 1, l'auteur avait développé l'idée que Jésus, le Messie, qui était venu, était infiniment supérieur aux anges, aux prophètes, et que sa parfaite déité ou sa parfaite divinité dans le chapitre 1 avait été amplement démontrée. Dans le chapitre 2, on se souvient que le problème pour les Juifs, c'était, s'il était notre Messie, comment il a pu être un homme et comment on a pu le mettre sur une croix puis le clouer là? Comme je vous dis, dans leur esprit, eux, ils attendaient un Messie militaire, un conquérant. Quelqu'un qui viendrait, qui dirait à l'armée romaine, on fout ça dehors, on reprend le contrôle de notre pays, c'est nous autres maintenant qui vont mener. Et là, c'est pour ça que c'était passé. Le Messie qui était venu, ça avait été une libération, mais de nature spirituelle, mais eux, ils avaient toujours compris les Écritures comme de quoi que c'était une libération militaire. Cependant, les Écritures, dans l'Ancien Testament, dont Isaïe 53 en particulier, disaient que le Messie devait être souffrant. Mais on dirait, ça je pense, ça vient nous montrer une manière d'agir qu'on a avec les Écritures. On favorise les versets qui font notre affaire, puis on se met à monter ça en épingle, puis les versets qu'on comprend pas, qui font pas notre affaire, on les met de côté. C'est un peu ça qu'il avait fait. Parce que c'est pas parce que ça le disait pas dans l'Ancien Testament que quand Christ viendrait, il souffrirait et toutes ces choses-là. Ça le disait, mais il ne le comprenait pas. Alors, dans la deuxième chapitre, on avait démontré pourquoi c'était nécessaire que Jésus soit un homme. Parce que s'il devait subir la punition à notre place, il fallait qu'il soit un homme. S'il se devait d'accomplir la loi à notre place, il fallait qu'il soit un homme. Alors là, il vient réunir les deux idées. Chapitre 1, Jésus est Dieu. Chapitre 2, Jésus est pleinement homme. Et là, il continue, il fait l'exemple dans le chapitre 3. Et là, on avait vu que à partir du développement d'une certaine idée, il arrivait toujours avec un avertissement. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a 5 avertissements qui sont placés ici et là dans les Écritures. Et si vous allez prendre les 5 avertissements, puis vous regardez le contexte, qu'est-ce qui a été dit avant? C'est toujours des avertissements par rapport à la relation que nous avons avec les Saintes Écritures. Dans la première, ça disait, il y a un très grand danger de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Dans le deuxième avertissement, celui qu'on avait vu dans le chapitre 3, versets 7 à 19, c'était celui de ne pas croire la parole de Dieu. Tu peux l'avoir, tu dis, ça c'est la parole de Dieu, je m'y attache. Je suis très attaché à elle. Mais quand elle me parle, je ne la crois pas. Alors, il y a deux dangers. Pas t'attacher, mais il y en a encore un autre qui te guette, c'est pas croire ce qu'elle dit. Alors, on avait vu que le peuple, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 3, on avait tout développé l'idée que le 600 000 personnes étaient sorties d'Égypte, que sur ça, simplement deux qui étaient rentrés dans la terre promise. Pourquoi ils avaient pu rentrer dans la terre promise? Parce que eux, ils ont cru à la parole de Dieu et Dieu leur a permis de rentrer. Alors, on voyait l'image, la semaine passée, on avait expliqué que ce passage-là parlait que sur l'ensemble du peuple juif, il y en avait deux qui représentaient les véritables élus à l'intérieur du peuple juif et que ça pouvait se comparer jusqu'à un certain point à la grande chrétienté de nos jours, mais que dans cette grande chrétienté-là, il y a aussi un certain nombre minoritaire d'élus et que dans le fond, le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui ont été sauvés, qui faisaient partie du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et l'ensemble de ceux qui sont sauvés dans l'ensemble de la grande chrétienté. Il y en a beaucoup qui professent croire en Christ. Mais est-ce que leur vie témoigne de l'authenticité de leur foi par leur crédulité? Crédulité, ça veut dire obéissance. Il était rendu là dans le développement de sa pensée, et là il dit, donc infiniment supérieur aux anges, infiniment supérieur à Moïse. Et là, il a dit aussi la semaine dernière, infiniment supérieur à Josué. Josué, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait sortir le peuple, mais c'était un repos terrestre qu'il avait trouvé. Et il disait, le repos dont je vous parle, ce n'est pas un repos terrestre, c'est le repos céleste, le repos qu'on va trouver à la fin de nos jours quand on va aller au ciel. Alors, il avait développé l'idée que Christ était infiniment supérieur à Josué. Maintenant, il va passer à un autre personnage très important, parce que dans le chapitre 5, on va tout développer cette idée-là, et c'est, sans le mentionner, chapitre 4, verset 14 à 16, il veut démontrer l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur un autre personnage extrêmement important pour les Juifs, Aaron. Aaron, j'ai eu de la misère à dire, je portais à dire Aaron, c'est Aaron. Aaron. Aaron était le grand souverain sacrificateur. Ça faisait longtemps que le peuple juif avait un souverain sacrificateur. On a étudié le tabernacle. On a vu que le souverain sacrificateur, c'était celui qui, une fois par année, entrait dans le Saint et traversait le grand rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints pour faire quoi? Pour présenter des parfums, pour prendre le sang d'un animal et aller le verser sur le propitiatoire. Et c'était une fois par année, le jour de l'expiation. On ne reviendra pas là-dessus nécessairement, mais c'est juste pour nous montrer que ici, il est en train de faire un shift dans sa pensée, qu'on pourrait dire. Il veut changer, et là, on va voir que l'idée qu'il veut maintenant commencer à développer, c'est l'infinie supériorité de Christ sur le système des anciens souverains sacrificateurs du judaïsme. Et on va tout développer cette idée-là. Et là, c'est pour ça qu'il dit, verset 14, il commence, il dit « ainsi ». Pourquoi il dit « ainsi » ? Parce qu'il est en train de dire, là, je vais vous dire une phrase, mais il faut que vous teniez compte de ce que je vous ai dit dans les chapitres 1, dans les chapitres 2, dans le chapitre 3. Lui, le fil de sa pensée, il continue. Ainsi, à cause que Jésus est Dieu, à cause que Jésus, ça n'enlève rien, ses souffrances à la croix, et à cause que la manifestation d'une véritable foi se manifeste dans l'obéissance, là, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, voyez-vous les mots qu'il utilise pour Jésus, il ne dit pas nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Et toute l'idée de la sacrificature, là, ça va nous aider beaucoup à quand on va traverser le chapitre 5, 6 et 7, parce que, ayant le tabernacle à l'esprit, ça va aider beaucoup à comprendre les chapitres. Parce que l'Épître aux Hébreux, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié l'Ancien Testament, ou jamais lu, encore pire, s'il ne l'a jamais lu, puis s'il ne l'a jamais étudié Exode ni Lévitique, quand il va arriver dans Hébreux, il va lire ça, puis il va comprendre absolument à rien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais si tu lis toujours la Bible en disant c'est quoi ça, puis tu ne vas pas chercher ta réponse, à quelque part, tu n'apprendras pas grand-chose. Alors, le début du chapitre 4 posait une grande difficulté que nous devions de comprendre. La difficulté était la suivante. Dieu avait fait une promesse à son peuple et la fin du chapitre 3 semblait nous montrer que Dieu avait laissé seulement rentrer deux personnes dans la terre promise de Canaan. Comment expliquer une telle chose? C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Nous avions vu que la promesse était conditionnelle à l'obéissance. De tout ce qui a été établi depuis le début de l'Épître, l'auteur cherche à convaincre les lecteurs que Jésus-Christ est leur grand souverain sacrificateur et que celui-ci est infiniment supérieur à Aaron, même si on ne le mentionne pas dans 4, 14 à 16. Là, vous allez voir que dans le chapitre 5, on va le mentionner, le nom d'Aaron. Alors là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de comparer Christ comme souverain sacrificateur à l'ancien système de sacrificateurs qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et il va faire le parallèle entre les deux de manière à démontrer aux Juifs, ne faites pas l'erreur de retourner dans l'ancien système, parce que notre grand souverain sacrificateur est beaucoup plus grand que tout souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Comment ça se transmettait, l'office de souverain sacrificateur? Là, il parle d'Aaron, mais là, on est rendu dans le Nouveau Testament. On est rendu dans les années 40, peut-être, et la fin des souverains sacrificateurs, c'était dans le livre de l'Exode, ça avait commencé là. Ça fait longtemps. Comment ça se transmettait, l'office de souverain sacrificateur? Là, il parle d'Aaron, mais est-ce qu'il veut parler uniquement d'Aaron ou de l'ensemble de la sacrificature de grands sacrificateurs qui s'était transmis? Il fallait que ça soit quelqu'un de la tribu de Lévi, il fallait que ce soit un fils d'Aaron. Et j'ai pris un dictionnaire biblique, et quand vous faites ça, vous restez surpris. Vous regardez les sacrificateurs qu'il y a eu depuis Aaron, et même avant, il y avait eu dans les Lévites. Et là, vous voyez toute la série des souverains sacrificateurs qu'il y a eu dans l'histoire aller jusqu'à Jésus-Christ. Il y en avait une quantité phénoménale. Mais là, ce qui est en train de leur... L'office de souverain sacrificateur, elle se transmettait de père en fils. Aaron, c'était un de ses fils. Après ça, il y a eu d'autres. Et il nous montre comment ça s'est développé dans l'histoire et comment, au temps de Jésus, l'office de souverain sacrificateur avait été souillé, on pourrait dire, par les Romains qui s'étaient donné le droit de nommer le souverain sacrificateur. Parce que c'était politique. Parce que les Romains, voulant garder le contrôle d'Israël, il y avait le corps des anciens qui s'appelait les Sadédis. Et à l'intérieur de ça, le boss des Sadédis, c'était le souverain sacrificateur. Alors, si tu nommais le boss des sacrificateurs, tu avais un certain contrôle sur, ben là, tu vas faire ce qu'on dit, ben on va te décoller. Voyez-vous, les Romains s'étaient donné le droit de nommer le souverain sacrificateur. C'était quelque chose qui ne devait pas se faire parce que Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que cet office-là se transmettait. D'abord, il fallait que tu sois un fils de Lévi, il fallait que tu sois un descendant d'Aaron, et si tu n'avais pas cette qualification-là, automatiquement, ça te disqualifiait. Alors, on voit au cours de l'histoire que normalement, dans le développement de l'histoire d'Israël, ça s'était développé selon la volonté de Dieu, mais qu'à partir d'un certain moment donné, quand les Romains ont commencé à se mettre le nez dans la religion, ça s'est gâté un petit peu. Alors, on va voir qu'il vient l'idée qui commence aujourd'hui dans 4, c'est vraiment l'introduction à l'idée que Jésus est infiniment supérieur à l'office, parce que c'était un office qui se transmettait de père en fils. Qu'est-ce que ça démontrait? C'est que le grand souverain sacrificateur était mortel. Et là, il est en train de nous montrer, notre grand souverain sacrificateur, lui, est au ciel, il est ressuscité et il est immortel, il est éternel. Donc, l'office que Jésus a commencé à faire au moment de son ascension au ciel, il n'a pas arrêté de le faire depuis ce temps-là, parce que lui, il ne meurt plus, là. Il est notre grand souverain sacrificateur qui demeure en permanence de faire le travail qu'il fait au ciel pour nous. Alors, les lecteurs que Jésus, le grand sacrificateur et que celui-ci est infiniment supérieur à Aaron. Et alors, ce qu'il est en train de vouloir démontrer, c'est que c'est infiniment supérieur non seulement à Aaron, qui était plusieurs centaines, sinon des milliers d'années avant. Mais, vu que le souverain sacrificateur avait eu une lignée, il est en train de vouloir dire, celui qui est en place actuelle, c'est le descendant du souverain sacrificateur, mais terrestre du peuple d'Israël dans l'ancien système du judaïsme. Il est en train de vouloir démontrer que faites pas l'erreur de retourner là-dedans, parce que Christ, quand il est venu, il est infiniment supérieur à ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire, on va aller regarder dans l'Ancien Testament, on va essayer de se souvenir quelles étaient les principales fonctions d'un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Alors ici, j'ai pris une description qui vient du Nouveau Dictionnaire biblique, page 720. On va le lire parce que c'est important de se souvenir qu'est-ce que l'Ancien faisait pour le comparer avec le Nouveau. La fonction la plus importante du souverain sacrificateur, on parle de celui de l'Ancien Testament, était de faire une fois par an l'expiation de tous les péchés du peuple. Porteur du sang expiatoire, protégé par la nuée du parfum tout autour de lui, il pénétrait seul, au-delà du voile, devant le propitiatoire. Il faisait l'expiation pour lui-même, sa maison, le sanctuaire et le peuple tout entier. Voyez-vous, il faisait l'expiation pour ses propres péchés. Alors que Jésus est un souverain sacrificateur qui n'a jamais commis de péché. Voyez-vous, il commence déjà à introduire la notion de la différence. Et là, ça dit, il faisait l'expiation pour lui-même sa maison. On voit ça dans Lévitique 16, 11 à 19, on n'ira pas là, mais c'est là que ça explique qu'est-ce que le souverain sacrificateur, quelle fonction il se devait de faire. Puis, il confessait encore sur la tête du bouc émissaire toutes les iniquités d'Israël. Le bouc, c'était un animal. Il mettait ses deux mains dessus. Et là, il confessait les péchés d'Israël et il les transférait sur la tête du bouc. Quelle était l'image par rapport à Christ? C'est que les péchés des élus, par transfert, l'agneau, on les transfère sur l'agneau qui est Jésus-Christ. Alors, c'est ça que ça enseignait, mais quelque chose à venir. Alors, il dit, puis il confessait sur la tête du bouc émissaire toutes les iniquités d'Israël, et l'animal chassé dans le désert les emportait loin de la face de l'Éternel. En tout cela, Aaron agissait comme un type de Christ. Tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur l'idée de type. Très important, souvent on entend ça dans les sermons, dans les lectures, un type, on dit telle affaire dans l'Ancien Testament, c'est un type de Christ. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est un type. On va le voir tantôt. Le souverain sacrificateur exerçait en outre la surveillance générale du sanctuaire, de ceux qui en assuraient le service et du trésor. C'est lui qui devait consulter Dieu au moyen de l'Urim et du Thummim. Alors, ceux qui ont lu leur Ancien Testament savent de quoi on parle, ou bien qui ont assisté ici quand on a parlé du tabernacle. Outre cela, il avait le droit de remplir n'importe quelle charge sacerdotale. Il avait la coutume d'offrir des sacrifices au jour de sabbat, de nouvelle lune et lors des fêtes annuelles. Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. On l'a vu tout à l'heure dans Hébreux, dans les leçons précédentes, Hébreux 3, versets 1 à 3. Il disait qu'elle était le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, dont Aaron n'était que le type. Aaron et ses successeurs étaient des hommes pécheurs. Voyez-vous, on commence déjà à faire la différence entre l'office de souverain sacrificateur de l'Ancien Testament et l'office de souverain sacrificateur de Jésus-Christ. Les hommes étaient mortels et pécheurs, Christ est immortel et non pécheur. Voyez-vous, on commence déjà à montrer des différences. Aaron et ses successeurs étaient des hommes pécheurs, obligés de faire d'abord l'expiation pour leur propre faute. Ils ne pouvaient offrir que des sacrifices d'animaux, incapables d'ôter réellement les péchés. On va le voir dans le développement de Hébreu. Hébreu nous dit que les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Temps, ça couvrait les péchés. Ça ne les ôtait pas. C'est important de faire la différence. Enfin, ils étaient mortels, parce que l'office de souverain sacrificateur se transmettait de père en fils, donc quand le fils prenait l'office, parce que son père mourait. Et le sacerdoce était constamment interrompu. Bien oui, l'office, là, à partir de Aaron, allait jusqu'à Christ, il y avait des milliers, plusieurs centaines de générations. Mais au moment que Christ est venu, ça existait encore. Était constamment interrompu. Christ, par contre, est éternel à la manière de Melchisédek. Absolument sans tâche. Différence avec le souverain sacrificateur ancien, lui est un pécheur, Jésus-Christ est absolument pur. Il a offert le seul sacrifice, eux étaient obligés de faire des sacrifices quotidiens, au sabbat, aux nouvelles fêtes, à la nouvelle lune. Il n'arrêtait pas de faire des sacrifices d'animaux. Christ, lui, les Écritures nous apprennent, on va le voir plus tard dans le développement de l'Épître aux Hébreux, il a offert un seul sacrifice, c'était lui-même. Il était l'agneau. Donc, le seul sacrifice efficace, il vit maintenant éternellement, de sorte que son sacerdoce intransmissible. Eux avaient un sacerdoce transmissible, lui a un sacerdoce intransmissible parce qu'il n'y a personne qui peut prendre sa place, il est éternel. Il ne mourra jamais. Il suffit pour nous sauver parfaitement. Jésus étant entré au-delà du voile, dans le ciel même, avec son propre sang, plaide maintenant notre faveur devant son Père. De là, il reviendra pour nous apporter la bénédiction éternelle. Alors, vraiment, l'image que Jésus est maintenant dans le ciel et qu'il fait le travail, qu'on a un seul sacrifice, il n'y a plus besoin de retourner dans l'office ancien du souverain sacrificateur qui était transmissible de père en fils. C'était des hommes mortels, des hommes pécheurs. Il est en train de dire, retournez pas là-dedans. Jésus est immortel, Jésus est sans tâche, Jésus est Dieu, Jésus est pleinement. Ah, il va tout développer l'idée autour de ça. On a dit qu'on vous donnerait un petit peu une idée du mot type. Je pense que je vais prendre le temps de le faire parce que c'est des notions qui reviennent continuellement dans les sermons. On dit une telle personne, un tel événement, une telle chose, c'est un type de Christ. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit de quelque chose, de quelqu'un ou d'une personne qu'il est un type de Christ. Vous en donnez une définition. Un type, c'est soit une personne, soit un événement, ou soit une chose de l'Ancien Testament qui a une réalité historique. Il faut que dans l'Ancien Testament, cette personne-là, cet événement-là ou cette chose-là ait eu une réalité historique qui est décrite dans l'Ancien Testament. Troisième chose, il faut que cette chose, cette personne ou cet événement-là comporte une intention divine. Autrement dit, l'intention divine, c'est que le Père, en nous présentant cette personne, cet événement ou cette chose-là, nous présente une personne qui était à venir, le Messie, et ça préfigurait, c'était comme un symbole. Et autre chose, il faut qu'un type comporte un événement, c'est-à-dire un élément prophétique. Un élément prophétique, ça veut dire que quand tu parles de cette personne-là, de cet événement-là, ou de cette chose-là, il faut que ça parle d'une personne qui va venir plus tard et dont ce symbole-là représente Christ. Et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité de l'antitype. Important de saisir l'idée de type-antitype. Type, c'est la chose dans l'Ancien Testament. Antitype, c'est l'accomplissement en la personne de Christ. Donc, quand on dit Aaron était un type de Christ, c'était une personne de l'Ancien Testament, ayant eu une réalité historique, comporte une intention divine, celle de parler de la venue future du Christ, et qui accomplirait un office ou une fonction qui avait des similarités, mais qui avait aussi des grandes différences. Qui comporte un élément prophétique. Donc, quand on parle d'Aaron, quelque part, quand on dit d'Aaron que c'est un type de Christ, c'est que certaines de ses fonctions peuvent se comparer à celui qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament, qui est Jésus-Christ. Ça va manifester la supériorité de l'antitype sur le type. Autrement dit, l'Ancien Testament préfigure des choses à venir, et quand la chose à venir est accomplie, l'antitype, tu ne veux plus retourner sur le symbole, tu as la réalité, là. Alors, et qui est désigné comme tel, le dernier élément, il y a six éléments dans la définition d'un type. Personne, événement ou chose, dans l'Ancien Testament. Réalité historique, intention divine, celle de préfigurer, comporte un élément prophétique et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité de l'antitype et qui est désigné comme tel dans le Nouveau. Il faut que le Nouveau Testament déclare que c'est un type de Christ. On va donner quelques exemples, sans rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait rester là-dedans très longtemps. Des personnes qui, dans l'Ancien Testament, qui préfiguraient des choses concernant la personne de Christ. Aaron, on va le voir au cours des prochaines semaines, vous allez voir dans le chapitre 5, on va parler beaucoup d'Aaron, de l'ancien système de sacrificature comparativement avec celui du Nouveau Testament. Melchisédek. Quand on parle de Melchisédek et on dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur qui a été nommé par Dieu lui-même selon Melchisédek, c'était qui ce que Melchisédek? Quelqu'un qui est dans la Genèse, à l'époque d'Abraham. Il fallait, pour être un souverain sacrificateur, que tu viennes de la tribu des Lévites. Jésus venait de la tribu de Juda. Pour les Hébreux, ça pouvait créer un problème sérieux. Comment ça se fait qu'il dit qu'il est notre grand souverain sacrificateur, puis la Bible elle-même dit que le souverain sacrificateur doit venir de la tribu de Lévi? La réponse, on va le voir dans le développement futur des prochains chapitres, c'est que dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, le Père avait dit « Tu seras sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek », il avait dit ça de son fils Jésus-Christ. Alors, même s'il n'était pas de la tribu de Lévi, ça ne le disqualifiait pas parce que sa qualification venait de Dieu le Père lui-même. Alors, on a parlé de personnes, Aaron et Melchisédek, on pourrait rentrer dans les détails, on n'ira pas. Après ça, il y a des événements qui pointaient vers la venue future de Christ aussi. Exemple, la Pâque juive, Exode 12. Quand le Seigneur disait au peuple juif, il faut que, à telle date, le 10 de Nissan, entre le 10 et le 14, il faut que vous preniez un animal, que vous tranchiez la gorge, il faut que vous mettiez un animal par famille, et il faut que vous le mangiez rôti, non pas bouilli, il faut que vous le mangiez avec des herbes amères, et toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça enseigne? Ça l'enseignait des choses sur la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus, on dit le jeudi saint, on est habitué à dire jeudi saint, je ne sais pas si c'était vraiment un jeudi, mais en tout cas, disons que c'est un jeudi pour les besoins de la cause. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu faire avec ses disciples? Prendre le repas de la Pâque. Ça venait d'où, ça? Exode 12. Ça faisait longtemps que les Juifs faisaient ça. Et il fallait pas que ça soit fait n'importe comment. Il fallait que ça soit fait avec du pain sans levain. Qu'est-ce que ça représentait, du pain sans levain? Du pain sans levain, dans la Bible, le levain représente toujours le mal. Ça représentait que Jésus, si on dit que le pain est son corps, fallait que le corps ne comprenne pas de mal. C'est pour ça que quand il prenait le repas du Seigneur, quand le Seigneur a institué le repas du Seigneur, il le fait avec les éléments, mais tels que décrit dans Exode 12. L'agneau, c'était lui, sans défaut, sans tâche. Le pain, c'était son corps, parce que quand on dit dans 1 Corinthiens 11, on dit que le pain représente son corps. Alors, il faut que ça soit du pain sans levain, ça le représente. Alors, des événements, il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête des trompettes, il y avait la fête des tabernacles, et il y avait le même l'institution du sabbat hebdomadaire. Toutes des choses qui pointaient vers l'accomplissement futur par Jésus-Christ. On rentre pas dans les détails là-dedans ce matin, mais c'est important de comprendre c'est quoi un type. Parce que sans ça, ça nous reste comme ça passe par... Et il y avait des choses aussi qui représentaient la venue future du Messie. Le tabernacle, on a passé 20-quelques leçons à étudier juste le tabernacle. Qu'est-ce que ça pointait vers? Toutes des choses qui concernaient la venue future de Jésus-Christ. Le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. Quand on rentrait dans le Saint, il y avait trois choses. La table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Mais on ne pouvait pas rentrer dans la partie arrière une seule fois par année, puis c'était le souverain sacrificateur qu'il fallait qu'il fasse. Ça s'est maintenu jusqu'à l'arrivée de Christ. Quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent dans le Nouveau Testament? Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Dieu, ça avait un pouce, deux pouces d'épais apparemment, ce rideau-là, d'après ce qu'on lit dans les commentaires. Imaginez-vous, les Juifs ont dû faire le saut. À la mort de Christ, au moment même où il est mort, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, indiquant que c'était Dieu lui-même qui faisait le travail. Qu'est-ce que ça l'indiquait? Que maintenant, le chemin vers Dieu était pleinement ouvert à cause de la mort de Jésus-Christ. Voyez-vous, toutes les choses qu'on a vues dans l'Ancien Testament, ça pointe. C'est-tu un hasard, c'est quand Jésus-Christ est mort, hein, le temps, le voile du temple, un voile de deux pouces d'épais, c'est déchiré de haut en bas. Ça pointait vers l'accomplissement. Alors, il y avait le tabernacle, il y avait le rideau qui séparait le Saint des Saints, qui étaient des choses qui représentaient des types. Il y avait l'offrande de l'Holocauste. Si vous avez déjà étudié Lévitique, dans Lévitique, au début du livre de Lévitique, il y a cinq types d'offrandes. Toutes des offrandes qui pointent vers un aspect de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu avais l'offrande de l'Holocauste, Lévitique 1. L'offrande de fleurs de farine, Lévitique 2. L'offrande des sacrifices de prospérité, Lévitique 3. L'offrande des sacrifices pour le péché, Lévitique 4, etc. Quand on prend Lévitique, le début du livre de Lévitique pointe vers des aspects de la réalisation et de l'accomplissement par Jésus-Christ, de différents aspects de son offrande. L'offrande de l'Holocauste, mais on ne rentrera pas dans les détails là-dedans ce matin, mais c'est juste pour montrer que les types, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, et quand on dit, quand on lit l'Ancien Testament, il faut toujours chercher Christ. Quand vous lisez une page de l'Ancien Testament, cherchez Jésus, il est là. Parce que le Père parlait de lui par toutes ces choses-là, des personnes, des événements, des choses qui pointaient vers l'accomplissement futur, de toutes ces choses-là par l'antitype qui serait Jésus-Christ. On va commencer au verset 14, Hébreux 4, 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Le premier mot du verset, qui est le mot « ainsi », fait référence à ce qui a été dit et démontré sur Jésus dans les chapitres 1, 2 et 3 et le début du chapitre 4. Ces chapitres ont développé plusieurs enseignements sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Premièrement, sur la grandeur de la personne de Christ. Qu'est-ce que le chapitre 1 nous avait montré sur Jésus? Jésus-Christ est d'essence divine, essence E-S-S-E-N-C-E. L'essence, ça veut dire la nature. Jésus était de nature divine qui impliquait quoi? Quand on parle de nature divine, d'essentialité de Jésus-Christ avec la divinité, on parle de trois choses. Retenez-les, moi je les appelle les trois co. Co-égalité, il était égal avec Dieu le Père, égal avec Dieu le Saint-Esprit. Co-essentialité, il avait la même essence, les mêmes attributs que Dieu le Père, que Dieu le Saint-Esprit. Et co-éternité, Jésus a toujours existé au même titre que le Père, donc les trois E. Égalité, essentialité, éternité. Si vous retenez ces choses-là, vous ne vous tromperez jamais sur qui Jésus est. Ça nous avait dit dans le chapitre 1, verset 2, « Le Fils, en parlant de Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de Dieu le Père. » Colossiens 1, verset 15 à 17, il parle de Jésus. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Regardez bien ce que ça dit. « Tout a été créé par lui et pour lui. » On parle de Jésus, là. « A été créé par lui. » Donc, ça a été créé par lui, il est le Créateur. Il est Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 2:9, si on n'est pas sûr que celle-là, on va en avoir un autre. On parle de Jésus dans le contexte. Car en lui, en Jésus, habite corporellement, donc dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Vous ne pouvez pas nommer un attribut que Jésus n'avait pas dans son corps d'homme lorsqu'il est venu sur la terre. Pleinement Dieu. La grandeur maintenant de sa position, Jésus-Christ est divin créateur. Par lui, il a aussi créé l'univers dans le chapitre 1, verset 2. Jésus-Christ est le divin sustentateur. Ça dit dans le verset 2, chapitre 1, qu'il a établi héritier de toutes choses et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus, par sa parole, il est capable de soutenir tout l'univers créé. C'est ça là, qu'il faut se rentrer dans la tête quand il dit « Ainsi demeurons fermes dans la foi que nous professons ». Il veut qu'on se souvienne de ces choses-là. Donc, il dispose, il dirige et il gouverne absolument toutes choses. 1 Chronique 29, verset 10 à 12. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel ». Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Autre chose qu'il voulait leur rappeler, qu'il en avait vu dans le troisième verset du chapitre 1. Jésus-Christ est le divin rédempteur. Il a fait la purification des péchés, comme on lit dans Hébreux 3. Il avait aussi l'honneur et l'autorité divine. Encore une fois, dans Hébreux 1:3, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ a un nom divin. Il a un nom qui est absolument unique, singulier, essentiel et inexprimable. Dans 1:4, ça dit « Devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Quand on prend les deux noms, Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus signifie « Jéhovah sauve », puis Christ signifie « oint ». Prophète loin, sacrificateur oint et roi oint. Donc, dans les deux mots Jésus-Christ, là, il y a tellement de théologie là-dedans, là, c'est incroyable. Alors, il dit qu'il lui héritait un nom qui est au-dessus de quelque nom, de quelque ange aussi puissant qu'il soit. Un nom d'autant plus supérieur. Maintenant, il nous avait montré aussi dans le dans les versets 6 et 7 du verset 1 que Jésus-Christ mérite l'adoration et le service divin. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il parle des anges que les Hébreux considéraient comme étant bien au-dessus d'eux. Et chaque fois qu'il y avait une apparition, il était tellement impressionné qu'il tombait à genoux puis il était prêt à l'adorer. Voyez-vous? Pour eux, là, les anges étaient infiniment supérieurs à eux. Il y avait de la confusion quand il y avait une apparition d'anges. Il était porté à les adorer. Et le contexte nous dit ici, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, ça dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui? Christ. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et il nous dit aussi que ce fameux Jésus-là qui était venu, qui était le Messie, exerçait la souveraineté divine. Dans le verset 8 du chapitre 1, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, » il parle de Jésus, là. « Ton trône », il parle de Jésus assis sur le trône. Donc, quand on est assis sur un trône, qu'est-ce qu'on fait? On règne. Alors, Jésus-Christ, actuellement, il règne, parce que le Père a dit au Fils, mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Plus loin que ça, après ça, il leur dit, Jésus-Christ possède l'omnipotence, l'immuabilité et l'éternité divine, dans les versets 10 à 12 du chapitre 1. Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Créateur. Si les cieux sont l'ouvrage des mains de Christ, il faut qu'il soit le Créateur. Après ça, il dit, ils périront, les cieux, la terre, mais toi, tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voyez-vous, il fallait que toutes ces choses-là remontent à l'esprit des Juifs quand il leur apportait le verset 14. Aussi, autre chose qu'il leur rappelle, c'est que Jésus-Christ est un médiateur divin. Donc, un médiateur, c'est quelqu'un qui agit entre Dieu et les hommes, et les hommes et Dieu. C'est Jésus. La Bible nous dit combien qu'il y a de médiateurs. Un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Alors, son incarnation était nécessaire pour accomplir les exigences de la loi morale, les 10 commandements. À la place de ses élus, ses souffrances étaient aussi nécessaires pour subir le châtiment de ses élus à leur place sur la croix. Dans le chapitre 2, verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, on parle de la souverain sacrificateur de Jésus-Christ, souverain sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, son intercession au ciel et la défense des siens étaient nécessaires. Verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Maintenant, ça nous disait aussi que le fameux repos que les Juifs cherchaient, où pouvaient-ils l'obtenir? Dans Jésus, chapitre 4, verset 8 à 10, ça nous dit, « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après ça d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » C'est le repos céleste. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Autrement dit, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On se repose de nos œuvres. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est Jésus qui accomplit l'œuvre à notre place. L'œuvre de prendre notre punition à notre place et l'œuvre d'avoir accompli la loi à notre place. Il a tout fait à notre place. On se repose sur lui. Il est notre repos. Notre repos céleste, parce qu'on a déjà la vie éternelle, même là. On est un véritable croyant. Il est déjà dans la vie éternelle. Il irait juste à perdre la vie physique, puis va rentrer vraiment dans la vie éternelle sans péché, sans corps. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans le verset 4, verset 11? Qu'est-ce que l'apôtre avait voulu dire? « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. À cause de la connaissance de Christ, nous devons de proclamer son nom de façon ferme, engagée et résolue. Nous devons de le faire publiquement et de façon permanente. Quand on croit en Jésus, il ne faut pas avoir peur de prononcer son nom public. À la fois la parole écrite et la parole essentielle de Jésus-Christ nous y aideront. » C'est ça qu'on avait vu, le dernier verset qu'on avait vu lors de notre dernière leçon, c'est que la parole de Dieu nous aide à nous maintenir dans l'obéissance et à nous indiquer la voie qu'on doit suivre. Et si vous vous souvenez du dernier verset, on parlait pas de elle, mais on parlait de lui en parlant de la parole. On parlait de à la fois la parole de Dieu écrite et à la fois la parole de Dieu essentielle vont vous aider à maintenir dans le bon chemin. C'est après avoir tout revisé ça très rapidement que là, il vient leur dire « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il était mort, il était ressuscité, il était monté au ciel à l'ascension, 40 jours après sa mort, il était déjà rendu au ciel, toutes les difficultés, ils avaient déjà, il est déjà installé au ciel, puis qu'est-ce qu'il fait là? On a vu récemment l'office de sacrificateur en bas, on avait vu qu'il l'avait fait pour nos péchés, on avait vu qu'il l'avait fait pour continuer à intercéder pour nous. Et on avait vu aussi une qu'on oublie souvent, c'est celui de nous bénir. Il est là pour nous bénir. Il est là au ciel pour nous bénir. Il n'est pas en train de dire aux Juifs, « Ben là, regardez, ça vous tente, retournez donc dans le vieux système, là, coudonc, vous êtes habitués à ça, là, puis c'est pas grave, là. » Il leur dit, « Ainsi donc, demeurez ferme dans la foi que nous professons. Vous professez croire que c'est Jésus qui a pris vos péchés, il a payé à votre place. Vous professez croire que c'est lui qui a accompli la loi à votre place. Ben, retournez-vous-en pas dans un système où c'était temporaire, que ça pointait vers l'antitype. L'antitype, il est venu, il est là, c'est accompli. Vous ne retournez pas là-dedans, vous faites une erreur monumentale. Alors, on va rentrer dans le verset 15, mais je suis sûr que je n'aurai pas le temps de le faire tout aujourd'hui, mais c'est pas grave. On le fera dans deux leçons. C'est important de comprendre le verset 15. Et là, on parle dans le verset 15, on va le lire, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Pourquoi il dit ça? Parce que si les Hébreux avaient allumé, là, il venait de leur dire que leur sacrificateur, c'était le Dieu de l'univers qui contrôle, il voyait uniquement sa grandeur. C'est comme, il y avait une crainte. Alors, il fallait qu'il se fasse, à quelque part, rassurer que ce fameux souverain sacrificateur-là n'était pas uniquement le Dieu qui inspirait une crainte énorme. Il fallait que ce Dieu-là soit un Dieu qui est connu ce que c'était l'humanité, qui a connu ce que c'était souffrir dans un corps d'homme, qui a connu, qui peut compatir à nos faiblesses et à nos infirmités. C'est ça qui vient leur rappeler ici, là. Parce que si tu te souvenais juste de la partie du chapitre 1, tu étais saisi de crainte. Oui, il est là, le souverain sacrificateur. Mais il fallait que tu comprennes, il est là, mais il te comprend, toi. Il sait ce que c'est souffrir. Il sait ce que c'est. Il est capable de répondre à tes besoins. C'est ça que ça dit dans le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il y a certaines versions qui utilisent infirmité. Mais dans le fond, c'est pour nous parler de notre misère. Autrement dit, Jésus est capable de comprendre nos misères. Pourquoi? Parce qu'il en a connu beaucoup de misère. Parce qu'il a accepté, pas parce que lui, il n'avait aucune, mais il a accepté de prendre les nôtres à notre place. Et là, ça nous dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça, j'avoue que c'est un passage difficile. Mais quand on se donne la peine de fouiller, on trouve des solutions qui sont intéressantes. Une des choses qui peut Aider à comprendre, c'est quand on va voir les mots grecs. Le mot grec pour parler de tenter, c'est un mot qui peut vouloir, qui peut être utilisé à deux sens différents. Ça peut être celui de tenter dans le sens de tentation, puis ça peut être celui d'être éprouvé. Une différence entre les deux. Mais pour vous montrer jusqu'à quel point que c'est difficile à traduire pour les traducteurs, dans Hébreux 4.15, version Louis II, ça dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses. » Et ça dit « sans commettre de péché ». Le mot « commettre », il n'est pas dans l'original. Alors, tu devrais lire « Il a été tenté comme nous toutes choses, sans péché. » Le mot « commettre » n'est pas là. Il a été mis là comme pour aider la compréhension. Mais si on s'en va dans une autre version, Hébreux 4.15, dans la Osterval, voici comment il lui traduit. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. » Voyez-vous, lui, au lieu de dire faiblesse, il dit infirmité, mais dans le fond, c'est la même idée. Au contraire, voyez-vous, lui, il n'utilise pas, il a été tenté, il dit, « Il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. » Voyez-vous, il n'a pas mis le mot « commettre » parce que le mot « commettre » n'est pas dans l'original, mais il était là comme pour. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Autrement dit, il y a un mot grec qui peut être traduit de deux façons. Le problème, c'est quand on lit ça, puis qu'on se dit, OK, il faut aller chercher la solution pour comprendre le verset. Est-ce qu'il utilise ce mot-là voulant dire tenter, ou est-ce qu'il veut dire qu'il utilise ce mot-là voulant dire éprouver? Parce que c'est pas la même chose. Alors là, le problème, le mot grec était traduit différemment dans ces deux passages de deux versions, Louis Sagon et Esterval, c'est le mot « Pépérasménon ». Moi, je n'aime pas ça trop utiliser de grec dans l'explication des versets. Mais ici, c'est important parce que si tu vas voir dans les dictionnaires, si tu vas voir dans les choses grecques, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ça veut dire que ça peut avoir deux sens, celui de tenter et ça peut avoir celui d'éprouver, tester ou vérifier la fidélité. Alors, ton problème, si tu dis « Comment je fais pour savoir? » Alors, mais là, quand tu lis les commentaires, la plupart des commentaires disent que le mot « pépérasménon », il veut dire les deux à la fois. Alors, si vraiment les personnes qui ont fait les études encore plus approfondies disent que ça peut dire les deux à la fois, ça veut dire que Jésus a été à la fois tenté et à la fois éprouvé, comme nous en toutes choses, mais encore là, il faut savoir poser des balises. Ceux qui ont déjà pris l'avion et qui sont atterris le soir, quand on veut comprendre c'est quoi une balise, c'est que les hommes mettent des feux ou des lumières sur une piste, tout le long de la piste, et l'avion a pu se guider en regardant le chemin de lumière. Elle sait très bien qu'il ne faut pas qu'elle dévie à gauche, elle sait très bien qu'il ne faut pas qu'elle dévie à droite, il faut qu'elle reste dans le chemin de lumière, sinon elle va se ramasser dans le champ de patates. Alors, pourquoi les balises sont mises là? Pour empêcher que tu ailles trop à gauche, pour empêcher que tu ailles trop à droite. Dans certaines interprétations de certains versets, il faut que tu poses les balises. C'est quoi une balise? C'est tout simplement utiliser les versets qui sont affirmatifs, qu'on ne peut pas douter. Tu poses d'abord tes balises, et après l'interprétation, il faut qu'elle soit à l'intérieur du chemin lumineux, comme on dit, si vous saisissez l'allusion que je veux faire. Parce que, moi, j'ai déjà entendu une fois en chair, je ne dirais pas où, là, c'est pas important, quelqu'un qui n'était pas habitué de prêcher, puis il a prêché qu'on était tenté en toutes choses, que Jésus avait été tenté en toutes choses comme nous, et il laissait sous-entendre la possibilité que Jésus ait pu pécher. Ça, là, c'est une erreur monumentale. Si tu enseignes ça, tu enseignes une hérésie. Alors, les fameuses balises. Les expositeurs s'entendent pour dire que le mot contient les deux sens pour Hébreux 4.15. Christ a été tenté, mais il a aussi été éprouvé. Il y a une doctrine dans les Écritures qui s'appelle celle de l'impeccabilité. Impeccabilité, ça veut dire incapacité de pécher. Pourquoi Jésus était incapable de pécher? Parce qu'il avait, lui, il avait les deux natures. Quand on dit de Jésus, il est l'homme-Dieu. On ne peut pas écrire homme puis Dieu sans mettre un trait d'union. Un trait d'union, ça veut dire que les deux natures sont dans la même personne. pleinement homme et aussi pleinement Dieu. Dans son humanité, il pouvait avoir connu ce que c'était que de connaître une tentation ou d'avoir subi des épreuves, la fatigue, la chaleur, la faim et bien d'autres choses. On pourrait allonger beaucoup la liste. Mais il y avait quelque chose que Adam n'avait pas. Parce que souvent, quand on lit les commentaires, ils disent, il était Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait à peu près la même position qu'Adam avait avant la chute. No way. C'est pas ça. Ça peut pas être ça. Parce que Adam avait été créé muable. Il pouvait perdre la sainteté qu'il avait au moment de sa tentation. Christ, la différence, c'est qu'il était pleinement homme, mais il y avait ce que théologien que j'ai consulté appelle un backstop. Vous savez ce que c'est un backstop? Quand on joue au softball, puis qu'on a un gros filet en arrière pour empêcher les balles, bien le backstop de Jésus, le filet de sécurité, c'était sa divinité. Étant homme et Dieu en même temps, il pouvait connaître que c'était une épreuve ou une tentation, mais jamais la tentation aurait pu aller au point qu'il aurait pu tomber. Parce que s'il aurait pu tomber, on ne serait pas sauvé. Puis s'il aurait pu tomber, ça impliquait que Dieu aurait pu commettre le péché. Parce que si Jésus, dans son humanité, commettait un péché, à cause de l'unité de l'homme et de Dieu en même temps, ça aurait dit, Dieu est capable de pécher, puis Dieu, s'il est capable de pécher, c'est plus Dieu. Voyez-vous, je racontais à Jean vendredi, on était allé prendre un café, puis je racontais ces découvertes-là. Il y a un pasteur presbytérien qui a pris le texte, puis il était tenté à toutes choses comme nous, puis lui, ce qu'il prêchait, c'est que Jésus aurait pu tomber. Comme on voit aujourd'hui dans certains livres, dans certains films, où on nous présente Jésus comme ayant couché avec Marie-Madeleine, comme ayant eu des désirs sexuels envers... C'est de la folie furieuse, là. Jésus étant pleinement homme, oui, il pouvait être tenté, mais encore là, on va expliquer, je pense que ça va prendre deux leçons, je pensais que je ferais faire en une, mais on n'y arrivera pas, il me reste encore beaucoup de matériel à donner. Une chose que j'expliquais une fois à Daniel, quand on parlait de ça, la question d'être Jésus, la capacité d'être tenté. Vous avez sûrement déjà été dans un garage pour faire réparer votre auto, où il y a les fameux grosses colonnes qui sont faites en acier inoxydable et qu'on pèse sur un bouton, puis votre char monte, là, votre auto monte. Là. Ça, c'est enduit d'huile, hein, pour que ça puisse monter comme ça, descendre, enduit d'huile. Si quelqu'un, disons qu'on en ferait une colonne comme ça, puis elle avait un pied, puis je dirais, OK, essaye de grimper en haut de la colonne, puis il y a toujours de l'huile qui coule là-dessus. Pourquoi je ne pourrais pas grimper après? Parce que je n'ai pas de prise. J'ai pas aucunement. Je glisserai continuellement. Pourquoi Christ n'a pas pu pécher et qu'il ne pouvait pas pécher la doctrine de l'impeccabilité? C'est parce que le démon n'avait pas de prise sur lui. Aucune prise. Qui me convaincra de pécher, a-t-il dit. Alors, c'est important de comprendre ça parce que si on ne comprend pas ça, on va dire que Jésus aurait pu tomber aurait pu commettre le péché. Et s'il commettait le péché, là, oublions tout notre salut, c'est là. Et s'il commettait les péchés, ça impliquait que Dieu pouvait commettre le péché. Parce qu'il était l'homme-Dieu. Son fameux filet de sécurité, c'était qu'il a enduré, il a connu ce que c'était qu'être tenté, mais comme le tentateur n'avait aucune prise sur lui, c'est un peu comme s'il essayait de monter après le poteau rendu d'huile, ça pognait jamais la tentation sur lui. Nous, pourquoi que quand le malin veut nous tenter, pourquoi qu'on chute? Parce qu'il y a une prise en nous. Puis c'est quoi la prise en nous? Notre nature pécheresse qui est encore en place. Quand le malin veut nous tenter, que le monde veut nous tenter, que notre propre chair veut nous tenter, pourquoi des fois ça a du succès? Pourquoi des fois on chute? Parce que ça a de la prise sur nous. Ça vient nous chercher. Puis comme le malin, c'est comme s'il y avait des barreaux là, après le tuyau, il peut monter dessus, il peut vraiment venir te chercher. Il vient te chercher au point où tu chutes. Jésus ne pouvait pas chuter, mais pouvait quand même sentir ce que c'était le poids. Même à un plus haut degré que nous, pouvait comprendre ce que c'était qu'une tentation, qu'une épreuve. Alors, la doctrine de l'impeccabilité enseigne qu'il était absolument impossible que Christ pêche. Pour bien comprendre le sens de ce verset, nous devons d'abord établir des balises, qui veut dire poser des signaux pour indiquer des dangers ou la route à suivre. Les balises sont les suivantes. Si on prend l'ensemble des versets qui parlent de Jésus, du péché, de son impeccabilité, on les met tous un à côté de l'autre, on va voir qu'on, dans le fond, notre balise, notre chemin lumineux est assez étroit. On peut pas... Alors, la première, Christ n'a absolument jamais péché. Première balise. Jean, chapitre 8, verset 46. « Qui de vous me convaincra de péché? » Y avait-il un homme de toute époque, de tout temps, qui pouvait convaincre Jésus de commettre un péché? La réponse, c'est non. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Un autre balise, Hébreux 7, 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, de Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Sans péché aucun, quand tu parles d'impeccabilité, c'est comme si rien de péché qui a touché sa vie. 1 Pierre 1,19, s'il n'y avait rien qu'un verset, on pourrait dire, hein? Il y en a plusieurs. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre 2,22, « Lui qui n'a point connu de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, il n'a pas connu de péché. » Première balise, donc, on a dit que c'était quoi? Christ n'a absolument jamais péché. Deuxième balise. Les Écritures nous enseignent que Christ a été tenté et éprouvé, si on dit que le mot parasménon veut dire les deux sens. Comment on peut vérifier si la tentation de Jésus est véritablement dans les Écritures? Luc 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On ne peut pas le nier, c'est marqué dans les Écritures. Un autre balise. Et il s'est dit, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Troisième balise. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Jacques 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il nous reste une balise, après ça on continuera la semaine prochaine, j'aurai pas le temps. Quatrième balise, Christ n'a jamais hérité d'une nature pécheresse à sa naissance. Ça, on le sait tous, quand Jésus est sorti de Marie, il n'avait pas hérité de la nature pécheresse à cause du fait que sa conception n'avait pas été faite de la même manière que tout homme ou toute femme par l'union d'un homme et d'une femme. Ça dit que, dans le cas de Marie, c'est l'ovule féminin de Marie avec le Saint-Esprit. Donc, l'union des deux avait donné un homme en chair et en os, comme nous, avec du sang comme nous. Mais la différence, c'est que la prise de la nature déchue, la nature qu'on a héritée, la nature pécheresse, tout homme naît avec. Il y a juste un homme. Mais il n'était pas un homme ordinaire, homme trait d'union Dieu, qui n'a pas hérité de ça. Donc là, tu viens de poser les quatre balises. Ça veut dire qu'il faut interpréter le texte en fonction de ces quatre vérités-là qui sont très clairement établies, mais il ne faut pas que tu déroges ni à gauche ni à droite, sans ça tu vas prendre le champ comme il y en a plusieurs qui ont pris. Le fameux pasteur que je vous parlais la semaine passée, le presbytérien, il a commencé à prêcher ça dans une église au 19e siècle, et l'église presbytérienne lui ont fait la discipline, ils l'ont mis dehors. Alors, c'est pas un sujet, on dit pas n'importe quoi sur ce texte-là. Là. Si on dit n'importe quoi, on peut se faire taper ses doigts sérieusement. Alors, ce qu'on va faire la semaine prochaine, moi j'ai trouvé qu'il y avait un théologien qui avait trouvé une explication qui, moi, me satisfait. On verra si ça vous satisfait vous aussi. Il s'appelle Wayne Grudem. Dans son livre de théologie systématique, l'auteur que je m'étais servi m'avait d'abord donné l'idée en anglais. Puis je me suis dit, ce livre-là, je le lis, mais je le lis en français, traduit. Alors, j'ai trouvé l'équivalent dans la version française. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va lire ce que lui écrit sur ce sujet-là, que je trouve qu'il est fait, c'est vraiment un bijou, bien fait, bien expliqué. Et là, on va aller plus en profondeur sur Hébreux 4.15, parce que c'est important. Alors, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. On continuera la leçon la semaine prochaine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour nous avoir fait comprendre encore un peu davantage l'Épître aux Hébreux. On voit quelle tentation ils avaient. Et Seigneur, cette même tentation peut encore nous assaillir aujourd'hui. On se doit de comprendre qui est Jésus, qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu. Et on se doit de comprendre l'ensemble des choses qui concernent sa personne et son œuvre de manière à ne pas tomber dans quelque erreur ou de quelque hérésie que ce soit. Alors, Seigneur, éclaire-nous, permet que la leçon de la semaine suivante soit bien, se déroule bien de manière à ce qu'on comprenne mieux ces versets qui posent quand même certaines difficultés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.